Aujourd'hui, à Radio-Canada International, nous recevons professeur Hassan Jamali, professeur à la retraite, conférencier, auteur, et auteur, entre autres, de « Coran et déviation politique et l'art de détourner une religion », entre autres sujets. Monsieur Jamali, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Est-ce que, en tant que professeur, vous étiez dans des cégeps, vous avez enseigné beaucoup, est-ce que vous avez senti une différence dans la réaction des gens entre avant le 11 septembre 2001 et après?
J'ai travaillé dans un cégep, j'ai travaillé 35 ans, dans un cégep très multiethnique, cégep ainsique, au nord de la ville de Montréal, où les élèves dans ce cégep sont originaires de 70 pays. Mm. Et le professeur de 35 pays. Alors je pense que je peux dire que c'est très représentatif en ce qui concerne les différentes sensibilités, oui, opinions, race, religion, etc. J'ai rien vraiment remarqué, c'est-à-dire comme changement d'attitude envers les étudiants musulmans. Moi-même, j'avais les étudiants musulmans en classe avant le 11 septembre et après le 11 septembre.
Et pas senti de différence?
J'ai rien senti vraiment.
D'accord. Mais dans la population générale, ça, alors là, c'est une autre paire de manches.
Oui. Ben, écoutez, c'est normal que c'est choquant, ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait.
Le 11 septembre. C'est normal que les gens développent les opinions, quelquefois les attitudes, tout ce que vous voulez. Mais aussi, j'ai pas remarqué vraiment que les Québécois vraiment ont changé. Même, je dirais quelquefois, j'étais étonné d'entendre certains Québécois dire « Ah, les Américains, ils ont eu ce qu'ils méritent. » C'est-à-dire, parce qu'il y a les Québécois, ils ont dit ça, j'ai entendu de plusieurs. Il y a beaucoup de Québécois qui sont plus ou moins informés de la politique étrangère et ne sont pas d'accord avec la politique étrangère américaine, notamment au Proche-Orient. D'un côté, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est énorme, inacceptable, mais de l'autre côté, on dit, oui, mais écoutez, quelquefois, on pousse les gens au désespoir ou même on encourage par nos actes l'extrémisme ou la création des groupes.
Ou la création, tout à fait.
La création des groupes qui vont faire du mal à l'Occident ou à un tel pouvoir ou à un tel pouvoir.
On est témoin de situations du genre aujourd'hui, de prises de position qui, Moyen-Orientale, avec des politiques inégales et de l'Occident et de la Russie et de l'OTAN notamment, d'avancer d'un pas, de reculer d'un autre pas, et avec Israël et la relation avec la Palestine, on se retrouve avec un foyer encore aujourd'hui de grandes tensions sociales, ethniques, politiques, religieuses. Et il y a déferlance vers les gens issus de l'immigration, issus de cette langue, de cette culture, mais pas nécessairement de cette région. Et ça, aujourd'hui, ça teinte toute la relation que peuvent avoir qui, les autorités, ou encore les gens de tous les jours, par rapport à l'immigration issue du monde arabe.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, je pense quand même que c'est sûr que c'est exploité. La situation internationale, la situation au Proche-Orient, la guerre civile en Syrie, ce qui se passe en Palestine, en Israël, etc., ça nous affecte tous à différents degrés, et particulièrement les jeunes issus de ces pays-là. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi les mouvements politiques aussi au sein de cette immigration musulmane. Les frères musulmans sont bien implantés au Québec. Hezbollah aussi. Il a aussi énormément d'influence sur les chiites libanais ici. Je connais plusieurs. J'avais des élèves, je connais d'autres personnes. Je trouvais toujours peut-être 8 sur 10 des chiites libanais que je rencontre sont influencés par Hezbollah. C'est pour ça, par exemple, je trouve quand même, et je déplore qu'ils ont une opinion, je trouve injuste envers le conflit syrien. Ça veut dire parce qu'il y a les organisations qui sont là, bien implantées, et aussi, j'imagine, que bien financées. Parce qu'ils ont des journaux, ils ont ceci, cela, les organisations, il y a les gens disponibles. Tout le temps sont disponibles. Alors, c'est un pays, comment ils vivent, de quoi, je ne sais pas. Alors, c'est sûr qu'il y a parmi les immigrants, parmi l'immigration musulmane, les personnes vulnérables, qu'ils développent un sentiment, quelquefois de refus, quelquefois d'hostilité envers l'Occident. Alors, ce sont les proies faciles à être recrutées par ces mouvements politiques. Alors, tout ça, ça existe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie d'une réalité qu'il faut composer avec. Alors, il y a, c'est sûr qu'on affronte le problème de la radicalisation, le problème aussi des signes religieux, les accommodements raisonnables, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est tout un débat. Et je ne pense pas que ce débat trouvera une fin dans un avenir proche, tant aussi longtemps qu'on ne finit pas avec des raisons, des motivations. Et ça, ça va rester.
Il y a un proverbe ici qui dit « Tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ».
Tout ça, à fait.
Il y a eu un court gouvernement péquiste qui avait créé quelque chose, une charte. Ce gouvernement a été défait. Le gouvernement suivant, qui est le gouvernement actuel, présentait un projet de loi 62 sur, entre guillemets, des accommodements. Et vous avez commenté et vous avez déposé un rapport, vous avez déposé un mémoire qui, à la lecture du mémoire, est assez cinglant par rapport aux signes ostentatoires, par rapport aux accommodements eux-mêmes aussi. Et vous-même, musulman, disiez que non, il faut pas, il y a une frontière qui doit arrêter quelque part, et la religion fait partie du monde, de la famille, de l'intime, du privé, et pas sur la place publique.
Oui, ça c'est ma position. D'abord, revenons à la question de la charte.
Ouais.
Moi, je trouve que le projet de la charte était bâclé, était mal fait. Je l'ai appuyé quand même, parce que j'ai pas voulu s'opposer a priori à une tentative, disons, de dire, voilà, la laïcité est importante ici.
La charte péquiste, vous dites.
Oui, oui.
D'accord.
La charte était mal faite, très, très mal faite, à mon avis. Et en plus, moi, je suis préoccupé davantage de quelque chose, pour moi, essentiel. Le Québec est une société distincte. Alors, l'école doit jouer un rôle très important dans l'affirmation de l'école publique dans cette société distincte.
Mm-hmm.
Pour moi, il n'y a pas de place pour les signes religieux dans une école publique. Je ne parle pas de voile, n'importe quel signe religieux. Et j'aurais aimé que...
La Grande Croix, pareil, aussi même chose. Là.
N'importe. Et j'aurais bien aimé s'inspire davantage du modèle français. En 2004, la France a voté à l'unanimité, c'était un consensus, une loi interdisant les signes religieux dans l'école publique. C'était suite à une commission, la commission Stasi.
Mmh.
Et cette commission s'est penchée vers l'adoption d'une telle loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait les filles musulmanes qui demandaient d'être écoutées à huis clos et en disant, s'il vous plaît, laissez-nous respirer à l'école, à l'intérieur au moins de l'école. Ce sont les filles voilées qui subissaient toutes sortes de pressions dans la banlieue, dans les pressions familiales et autres. Alors, c'est là, ça dit, il y a un problème. Alors ici, moi, je trouve que la charte devait dire au moins, et pour moi, c'était le point le plus important, même humainement important, de ne pas permettre d'envoyer des jeunes filles très, très jeunes voilées dans l'école publique. Et aussi, d'autres religions aussi. Non, l'école publique, pour le vivre ensemble, pour la cohésion, et pour ne pas isoler aussi. Parce que, écoutez, c'est un instrument d'isolation. Mmh. On isole certaines personnes du reste. Et en plus, c'est juste les filles qui sont visées par ça. C'est-à-dire, on envoie un garçon et sa sœur dans une école publique. Le garçon, comme tout le monde, en t-shirt, confortable. Et la fille est voilée, elle transpire, même elle pue à la fin de la journée. Et on ferme les yeux. Alors, pour moi, ça, c'est essentiel. Après, dans le milieu de travail, etc., on peut trouver
des arrangements,
mais il y a quand même, à mon avis, la fonction publique doit être vraiment neutre au niveau des fonctionnaires, au niveau des gens qui travaillent, les professeurs. Je vous donne un exemple. Certains juifs portent la kippa.
Mm-hmm.
Au cégep Ansik, où j'ai travaillé, il y avait à peu près 25 professeurs d'origine juive. Je n'ai jamais vu la kippa. Par contre, une fois, un collègue à moi, je l'ai rencontré dans la rue avec sa kippa. Je lui ai dit, « Ah bon, André, tu portes ça, mais pourquoi tu portes ça au cégep ?» Il m'a dit, « Non, au cégep, je n'ai pas le droit d'afficher mon appartenance à une religion. » Et j'ai trouvé ça, c'est une position tout à fait normale, raisonnable et aussi respectueuse des autres. Pourquoi moi, je dois solliciter toutes sortes de questionnements et d'attitudes? Écoutez, il y a les communautés qui se détestent. Je sais que les Grecs n'aiment pas beaucoup les Turcs. Je sais aussi, même à l'intérieur de ce pays. Maintenant, écoutez, la communauté syrienne à Montréal sont déchirées. Quant aux pro-Assad, je vous donne un exemple. La première fois que j'ai vu, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en Syrie, la première fois que j'ai vu, par exemple, les femmes réfugiées, pratiquement toutes portent le hijab. Mais ça, c'est lié un peu à ce qui s'est passé en Syrie sous le régime d'Assad. Mais ce que j'ai remarqué aussi, il y a des jeunes chrétiens maintenant qui portent une croix assez grande quand même. Mais ça, c'est, ça n'a jamais existé avant. Alors, imaginez-vous, tout de suite, quelqu'un qui va, disons, régler une affaire au niveau du gouvernement, dans un bureau quelconque. Moi, je suis syrien, je suis musulman. Syrien contre le régime, etc. Et devant moi, quelqu'un qui porte une croix. Et je remarque par son accent qu'il est aussi syrien. Alors tout de suite, pour moi, c'est un peu mon ennemi. Ou au moins mon ennemi là-bas.
Et ça se transporte.
Mais oui, parce que c'est un signe qu'il porte ça exprès. Il y a un message. C'est pas comme ça, juste parce que s'il veut qu'il soit protégé par quoi, ça peut être dans sa poche, ça peut être camouflé. Non, non, non. C'est une attitude. Et c'est une prise de position. De côté musulman, c'est important. Et c'est Tariq Ramadan l'a dit déjà. Il a dit, laissez la fille faire en sorte que l'islam est visible en Occident. Alors, c'est une mission. Je sais que toutes les femmes voilées n'ont pas écouté Tariq Ramadan. Il y en a qui pensent que c'est une obligation divine. Ça fait rien. Mais il y en a qui se servent des femmes pour transmettre un message et pour aussi signaler une présence musulmane en Occident.
Il y a des années, dans une émission qui s'appelait Tam Tam Canada, que je faisais ici sur Radio-Canada International, qu'on appelait une émission qui était le témoin de ce laboratoire de vivre ensemble. Ce laboratoire de vivre ensemble, malgré ses tensions, est-ce que vous avez espoir que ce qui en sortira de cette expérience de vivre ensemble soit quelque chose de positif?
Écoutez, moi je trouve que c'est, en général, au Québec, moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème. Les problèmes sont créés par ceux qui ne veulent pas le vivre ensemble. C'est eux qu'ils essaient d'isoler certaines personnes, d'influencer ou de prétendre être le porte-parole des musulmans. Il n'y a pas de communauté musulmane. Les musulmans ici sont originaires d'une trentaine de pays. Ce ne sont pas juste les Maghrébins, les musulmans. Il y a les Africains, il y a les Asiatiques, il y a même 82% des musulmans ne sont même pas arabes.
C'est ça.
Alors, en général, je trouve que les gens sont paisibles, sont ouverts. Moi, je vis dans la banlieue, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Bruno de Montarville. Écoutez, c'est une ville québécoise. C'est incroyable. J'ai eu plus d'amis là-bas, parmi les Québécois, que quand j'étais à Montréal. Là-bas, le tabagisme.
Les journaux,
si
et voulez, tout, c'est ça?
C'est un Libanais chiite. C'est lui qui a le magasin d'électronique. C'est un Marocain. Très apprécié, très aimé. Il chôme pas. Il y a un magasin en vrac. C'est une Algérienne qui a ça. Et il y a le Chichtaou. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a les familles. Il y a une femme qui a ouvert une garderie en milieu familial. J'ai jamais entendu de problème. On est dans une société ouverte, tolérante. Les gens sont quelquefois curieux, ils posent des questions pour en savoir davantage. Les Québécois, ce n'est pas les gens qui cherchent l'affrontement.
Et si je vous demandais en terminant, est-ce qu'on cesse un jour d'être immigrant?
Bien sûr. Moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai cessé d'être immigrant, même ça fait 40 ans que je suis au Québec.
D'accord.
Je pense que les premières 20 ans, personne même, on n'a jamais discuté religion, personne ne m'a demandé c'est quoi ma religion. On n'est plus immigrant, comme à un moment donné. On peut avoir un ami de race, on ne voit plus sa couleur. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et aussi, je pense que la société québécoise, c'est une société qui intègre très, très bien les gens. Il y a toujours des problèmes. Il n'y a rien d'idéal. Mais il n'y a pas d'obstacle majeur à l'intégration. Moi, j'ai élevé 4 garçons ici dans les écoles, et à Montréal, et à Saint-Bruno, etc. Et quand je les vois ici, je me dis, mais ce sont des comme les autres. Ils sont entourés d'amis québécois. Ils sont bien dans leur peau. Qu'est-ce que je demande de plus? Et moi aussi, j'oublie que je suis immigrant, mais ils me rappellent maintenant, mais à cause de circonstances.
Un des grands avantages qu'on a à travers ça, c'est qu'on a un hiver ici qui canne bien des gens. Hassan Jamali, merci beaucoup d'être passé chez nous.
Merci à vous.